Vous écoutez On lit pour vous.
Comment concilier identité francophone et diversité culturelle à l'école? Un texte de Marianne Despelleteaux paru le 1er juillet 2025 dans l'Eau vive. Remplacer le curling par le basketball, financer des ateliers de danse africaine. La francophonie en milieu minoritaire tente, non sans dissidence, de s'ouvrir à la diversité qui grandit dans ces écoles. Si certains y voient une belle ouverture, d'autres craignent de voir la culture locale s'effacer. Pour l'une de nos activités provinciales, à la demande des élèves, nous avons changé le curling pour le basketball, un sport qui rejoignait davantage de jeunes, notamment ceux issus de l'immigration récente, témoigne une responsable de l'animation socio-culturelle en Saskatchewan, Marie-Hélène Tanguay, dans un document sur la construction identitaire et l'animation culturelle rédigé en 2019 par l'Association canadienne d'éducation de langue française, ACELF, dont elle est aujourd'hui directrice générale. Ce changement d'activité sportive est un exemple parmi d'autres des façons dont les animateurs culturels s'adaptent à une francophonie de plus en plus diversifiée, un mandat qui leur est d'ailleurs conféré par l'ACELF dans le document. Ils sont là pour tous les élèves et pour faire en sorte que la diversité au sein de la francophonie soit mise en valeur. Luc Paquette, un nom fictif est utilisé pour des raisons de sécurité et de confidentialité, animateur culturel en Ontario français, craint de son côté un effacement de la société d'accueil. Tyrannie du présent. Il y a de l'immigration qui vient de partout et, par conséquent, on veut souligner la contribution de chaque communauté culturelle. On a commencé avec le mois de l'histoire des Noirs et ça va de soi, reconnaît Luc Paquette en entrevue avec Franco Presse. Après, d'autres communautés culturelles ont commencé à demander le mois du patrimoine asiatique, latino-américain, etc. De son expérience, le mois de l'histoire des Noirs est de plus en plus consacré aux cultures africaines, plutôt qu'à l'histoire de ces communautés au Canada, et bénéficie d'une attention démesurée en comparaison au mois de la francophonie ou au jour des Franco-Ontariens dans certaines écoles. Plus d'activités, plus de grands événements organisés, des célébrations. Inévitablement, ça a un impact sur les référents culturels qu'on leur propose. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il reste à l'histoire et à la culture franco-ontarienne? Pas grand-chose. Luc Paquette confirme que les écoles fêtent toujours le jour des Franco-Ontariens le 25 septembre et que le 50e du drapeau vert et blanc sera célébré cette année. Mais à son avis, la culture franco-ontarienne est souvent présentée comme une chose du passé et son histoire n'est pas assez racontée. C'est la tyrannie du présent, lâche l'animateur culturel. Accueillir l'élève où il est. Après une carrière de 20 ans comme animatrice culturelle franco-ontarienne, Louise Allard constate que les animateurs culturels ont eu à s'ajuster. Quand on parlait de franco-ontariens il y a 25 ans, c'était pour la plupart des franco-ontariens que j'appelle « pure laine », explique-t-elle. La réalité n'est plus la même, mais le but est le même, c'est-à-dire de protéger et valoriser notre langue et notre culture. Sauf qu'il faut accueillir l'élève issu de l'immigration où il est, avec sa richesse et sa culture. L'approche de Mme Allard consiste à échanger avec l'élève et à s'intéresser à sa culture d'origine. « Il faut qu'il se sente impliqué », dit-elle. « Si je lui donne un drapeau franco-ontarien et que je lui dis « on fête le 25 septembre », il va arriver à la maison et raconter qu'il y avait un party, du gâteau et des chansons. Ça n'a aucune signification. » Selon elle, il faut reconnaître et célébrer les origines des individus qui portent aujourd'hui ce drapeau. Ça ne veut pas dire de mettre un X sur notre histoire. Au contraire, elle évolue. Des activités de partout en français. La francophonie est plurielle. Elle est en évolution constante, remarque la directrice de la programmation Art à l'école de la Fédération culturelle canadienne-française, FCCF, Marie-Ève Desormeaux. L'organisation a mis sur pied Passe-Part, un programme de micro-subventions dédié aux projets artistiques et culturels dans les écoles francophones. Plus de 1700 activités en ont bénéficié entre 2019 et 2023. On a des activités qui ont mis en valeur les cultures africaines, autochtones, caribéennes, latino-américaines, maghrébines, indiennes, comme des ateliers de danse africaine, donne en exemple Mme Desormeaux. Le critère, c'est que ce soit en français, mais ça pourrait être des cultures de partout dans le monde, explique-t-elle. Il y a une juste place à la tradition, au patrimoine, à un certain folklore, tout en ayant une place à toute la francophonie actuelle. Pour l'avenir du français, on n'a pas le choix. Il faut tendre la main à toute communauté linguistique qui choisit les émotions en français, la culture en français. Ça passe par la jeunesse, estime Mathieu Gingras, un passeur culturel basé au Nouveau-Brunswick qui fait la tournée des écoles. Il est conférencier officiel de l'organisme Français pour l'avenir. Tendre la main, ça veut aussi dire expliquer. Le nouvel arrivant, dont le français est sa deuxième, troisième, quatrième langue parlée, va se dire « Mais pourquoi il y a deux langues officielles au Canada? Moi, je parle le swahili, l'arabe, le portugais à la maison. Pourquoi pas ces langues-là aussi? » Il y a un côté historique, patrimonial, héritage qu'il faut raconter. Je n'ai pas vu en 20 ans quelqu'un issu de l'international qui me dit ne pas être d'accord une fois qu'il entend pourquoi on protège le français, assure Mathieu Gingras. La sauvegarde des cultures franco-canadiennes, qui réside au cœur des préoccupations de Luc Paquette, demeure le grand défi. Les Canadiens français se sont battus pendant plus d'un siècle, rappelle le chercheur de l'Université de Moncton, Daniel Bourgeois. On voulait vivre notre propre culture, notre propre histoire, notre propre patrimoine. On a enfin eu ça. Maintenant, on accueille beaucoup de francophones. La langue n'est pas vraiment l'enjeu principal, qui nous arrive avec différentes cultures. Il y a des différences évidentes. Équilibrer la valorisation de notre propre langue, culture, patrimoine, etc., et intégrer celui des nouveaux arrivants n'est pas toujours facile, reconnaît-il. Les animateurs culturels sont en grande partie ceux qui doivent trouver l'équilibre, mais comme le rappelle M. Bourgeois, ceux-ci se font rares dans certaines provinces. C'était « Comment concilier identité francophone et diversité culturelle à l'école », un texte de Marianne Despelleteau paru le 1er juillet 2025 dans L'Eau vive.
Le Centre d'art de Percé sera rénové. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 12 juin 2025 dans Le Devoir. 2 millions de dollars sont accordés par le gouvernement fédéral pour préserver et restaurer la grange Charles Robin, située en plein cœur de Percé. Le bâtiment est connu depuis les années 1950 pour abriter le Centre d'art de Percé. Depuis quelques années, il abrite le Festival des Percéides. L'organisme en est locataire à long terme. On va maintenant s'asseoir avec les propriétaires pour planifier une location de 25 ans ou un achat du bâtiment, explique au Devoir François Cormier, le directeur général de l'organisme. Il souhaite offrir bientôt des activités artistiques, communautaires et pédagogiques d'avant-garde à Percé toute l'année, au bénéfice de la région. Ce bâtiment, construit vers 1780, a grand besoin d'amour. Un projet de montage financier dont la somme s'élève à 5 millions doit à terme assurer la réalisation des travaux nécessaires pour en assurer la pérennité. Le bâtiment n'a jamais été isolé ni aménagé pour l'hiver. Nous souhaitons pouvoir l'utiliser à l'année. Les activités culturelles présentées sur place n'ont cours pour l'instant que durant la belle saison. On y présente un festival de cinéma, des projections, des expositions et diverses manifestations culturelles. Le premier film que nous projetons cette année est Fanny, 2025, un film du réalisateur québécois Yann Englund. Nous sommes les seuls durant l'été à diffuser du cinéma d'auteur sur toute la péninsule. Beaucoup d'auteurs de la Gaspésie viennent d'ailleurs présenter chez nous leurs courts-métrages. Des travaux jusqu'en 2029. Depuis les années 1950, ce centre d'art fait partie des attraits de la Gaspésie. De nombreux artistes de renom s'y sont produits, dont Félix Leclerc, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Raymond Lévesque, Pauline Julien et Claude Léveillé. Nous sommes situés en plein cœur de la ville. Forcément, les gens veulent savoir ce qui se passe dans ce bâtiment. Ils sont curieux. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans ce bâtiment intrigant. C'est une attraction culturelle de longue date, explique M. Cormier. Il souhaite que le lieu devienne un centre culturel ouvert à l'année, au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Les travaux à réaliser sont échelonnés sur un horizon qui va jusqu'en 2029. On va d'abord retirer le parement en bardeau l'année prochaine pour isoler le bâtiment. En même temps, on va s'occuper de la réfection des fondations. La direction des Perséides se promet de rencontrer bientôt les représentants du gouvernement québécois pour s'assurer aussi d'une contribution de ce côté pour la préservation de ce bâtiment patrimonial. L'organisme dit être appuyé par une quinzaine de partenaires qui représentent la diversité de la communauté locale. Le Centre d'art de Percé, dont les Perséides poursuivent en quelque sorte l'œuvre, a été fondé en 1956 par l'artiste Suzanne Guitté et son premier mari, Alberto Tomi. Ce dernier, né à Florence, en Italie, a passé les dernières années de sa vie en Gaspésie. Le centre d'art va devenir, pendant des décennies, un point de gravité pour tout le monde de la culture dans la péninsule gaspésienne. C'est en 2018 que les Perséides ont fait revivre les lieux, délaissés pendant quelques années à la suite de l'assassinat de Suzanne Guitté par son deuxième mari. C'était « Le centre d'art de Percé sera rénové », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 12 juin 2025 dans Le Devoir.
Refroidir les nuages de données avec l'eau du fleuve, un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 21 juillet 2025 dans La Presse. Plutôt que l'air climatisé, c'est l'eau du fleuve Saint-Laurent qui refroidit les serveurs du centre de données d'OVH Cloud à Beauharnois, en Montérégie. La presse l'a visité pour démystifier le fonctionnement d'une technologie alliant deux ennemis naturels, eau et électronique. J'aimerais que les gens comprennent que le nuage, c'est très physique, lance d'emblée Isabelle Paiement, directrice du site. Ici, à Beauharnois, l'immatériel devient matériel. On y trouve près de 90 000 serveurs qui bourdonnent sans arrêt, et on ambitionne d'en accueillir jusqu'à 360 000 d'ici 10 ans. C'est énorme, même à l'échelle mondiale. Énorme en superficie, avec 10 000 mètres carrés, mais aussi énorme en besoins énergétiques. Traditionnellement, on emploie l'air climatisé pour refroidir les serveurs, processus très coûteux en électricité, et dégageant beaucoup de gaz à effet de serre. Pas ici. À l'époque où l'on a commencé à le faire, on nous regardait un peu bizarrement. Mettre de l'eau sur des serveurs, l'idée n'est pas intuitive, raconte Guillaume Gilbert, directeur des communications d'OVH Cloud. Environ 70% des besoins en refroidissement sont comblés par l'eau. Cette méthode gagne tranquillement du terrain dans le monde de l'info nuagique, bien qu'elle demeure marginale. Révolution liquide. De l'extérieur, le centre de données de la multinationale française, a des allures de prison avec sa clôture d'une douzaine de pieds bordée de barbelés. Pour y entrer, les journalistes doivent décliner leur identité, être pris en photo, puis peser. Sécurité oblige. Mettez des bouchons. Des serveurs, ça fait du bruit, prévient Isabelle Paiement avant même d'entrer dans la salle des serveurs. Elle avait raison. Le vrombissement régulier de ce véritable organisme vivant, comme aime à l'appeler le gestionnaire du centre, Michel Garcia, est impressionnant. Depuis les interminables rangées où des dizaines de milliers de serveurs, rappelant des boîtes à pizza, sont empilés les uns sur les autres jusqu'au plafond, un élément incongru sort du lot. Des fils rouges et bleus en plastique connectés à même les serveurs. Les tubes bleus acheminent l'eau froide de la cuve vers les serveurs. Les rouges sortent l'eau réchauffée, explique Michael Garcia. C'est ce qu'on appelle le refroidissement à l'eau, renchérit sa collègue Isabelle Paiement. Autrement dit, ces tubes en plastique acheminent une eau à une température de 20 degrés Celsius directement sur les serveurs. Résultat, le contact presque direct refroidit l'appareil. Attention, l'eau ne circule pas partout sur le matériel informatique, mais bien dans un module en cuivre installé sur le processeur, la partie dégageant le plus de chaleur. Ainsi, plutôt que de refroidir l'ensemble de la salle comme dans un centre fonctionnant à l'air climatisé, les efforts sont plutôt concentrés au point chaud, c'est-à-dire à même le cœur du serveur. Et c'est la circulation rapide de l'eau qui fait tout le travail. Pourquoi l'eau et non pas l'air? Imaginez que vous vous brûlez le bout du doigt. Si vous le plongez dans l'eau froide, il se refroidira plus vite que si vous l'exposez à l'air frais extérieur, et ce, même si l'air est plus frais que l'eau. C'est le même principe pour les serveurs. L'eau est plus efficace. L'équivalent d'un petit verre d'eau refroidit un serveur pendant 10 heures, illustre Michael Garcia. Le tout se fait en boucle fermée, c'est-à-dire en réutilisant la même eau qui est réchauffée par les serveurs, puis refroidie à l'extérieur du bâtiment. En tout et partout, le centre de données est de 30 à 40 fois moins gourmand en énergie que la moyenne. Dans la dernière année, les 78 centres de données sur le sol québécois ont consommé 150 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 60 000 résidences. Avec une consommation de 9 mégawatts, le centre de Beauharnois est peu gourmand, compte tenu de sa grande taille. Des centres qui hébergent autant de serveurs ailleurs dans le monde consomment beaucoup plus d'énergie. Le froid québécois rentabilisé. D'une tour de contrôle, des murs d'écran affichent en temps réel l'état du réseau et la température de chaque serveur. Tout est surveillé au degré près et la moindre anomalie est signalée au duo de techniciens qui veillent nuit et jour au bon fonctionnement du site. Le choix de Beauharnois pour un centre de données n'est pas anodin et se résume en trois mots: emplacement, climat, hydroélectricité. La multinationale française s'est installée dans l'ancienne aluminerie de Rio Tinto, à deux pas de la centrale hydroélectrique et aux abords du fleuve Saint-Laurent, précisément pour ces raisons. La proximité de la centrale de Beauharnois, à quelques centaines de mètres, est un avantage non négligeable. Le site est alimenté par deux lignes électriques directes. 12 immenses génératrices assure aussi un filet de sécurité puisque le centre de données ne peut jamais arrêter de rouler. Outre le refroidissement à l'eau, le reste des besoins énergétiques du centre sont comblés par l'air ambiant. Aucun air climatisé n'est nécessaire, même l'été. Une rareté dans ce genre d'installation. Le climat québécois, froid et humide, est un précieux allié pour le refroidissement des données. À Beauharnois, la température moyenne annuelle est d'environ 6 degrés Celsius, selon le ministère de l'Environnement. Sans air climatisé, on divise la facture énergétique en deux, affirme Michael Garcia. D'où l'intérêt grandissant de plusieurs entreprises d'hébergement de données pour cette technologie qui allie protection de l'environnement et économie. C'était refroidir les nuages de données avec l'eau du fleuve, un texte de Jeanne Claveau-Laviolette, paru le 21 juillet 2025 dans la presse.
La collecte des vieux frigos, enfin chez vous. Un texte de Sarah Champagne, paru le 9 juin 2025 dans la presse. Le fardeau de se débarrasser de son vieux réfrigérateur, de son gros congélateur ou de son cellier qui accumule la poussière au sous-sol sera maintenant moins lourd. Go Recycle lance un nouveau programme pour les récupérer gratuitement au domicile des Montréalais et des Lavallois. Les réfrigérateurs et les congélateurs occupent le haut de la liste des plus gros pollueurs domestiques au même titre que les climatiseurs. Ce sont des créatures en plastique. Elles regorgent de fréons, le nom commercial d'un gaz réfrigérant, en plus d'une quantité phénoménale de métaux, du mercure et des halocarbures, fluor, hydrogène, carbone, même du chlore. L'organisme Go Recycle, bras droit pour le recyclage de la Société d'État Recyc Québec, a distribué l'an dernier une vingtaine de gros conteneurs supplémentaires à des écocentres pour récupérer les appareils réfrigérants. Il existe des centaines de points de dépôt accessibles au public au Québec, mais le transport est un frein. Souvent, les gens vont céder leurs vieux électroménagers à des ferrailleurs qui vont les démonter pour les métaux sans égard aux fuites possibles de gaz dans l'atmosphère. Jules Foisy-Lapointe est directeur général de Go Recycle. Il a donné rendez-vous à la presse devant un conteneur de vieux frigos et climatiseurs muraux à l'écocentre de Rosemont-la-Petite-Patrie, situé au 1100 rue des Carrières. Demande en ligne. Pour bénéficier du nouveau service de collecte à domicile lancé cette semaine, explique-t-il, les citoyens devront remplir un formulaire en ligne, choisir un jour et une plage horaire et trouver un moyen de laisser l'appareil sur le bord de leur propriété ou sur le terrain de l'immeuble où ils habitent. Pas sur le bord de la rue, précise M. Foisy-Lapointe. Éventuellement, la cueillette gratuite pilotée par l'organisme à but non lucratif s'étendra à toute la région métropolitaine, aux villes de la Rive-Sud, de la Couronne-Nord et jusqu'à la ville de Québec. À une jonction de l'exigu écocentre, il est à peine 10 heures du matin que déjà, il y a une file à chacun des points pour déposer des rebuts de toutes sortes. Un homme traverse le stationnement avec une porte. Une dame avec de vieilles prises électriques. Bientôt, avec le blitz des déménagements du 1er juillet, la valse des déchets promet de s'accélérer. Dans son rapport annuel dévoilé le 1er juin, Go Recycle affirme que ses activités ont permis d'éviter d'envoyer plus de 150 000 tonnes de gaz à effet de serre, GES, en 2024. C'est l'équivalent de 24 676 tours de la Terre en avion. Récupération et stockage des gaz polluants. M. Foisy-Lapointe soulève un climatiseur dans le conteneur. Il explique qu'une fois qu'il sera plein, son contenu sera acheminé à l'usine Pursfera, dans le quartier industriel de Bécancour, en Mauricie. À cet endroit, 97,8% des composants sont récupérés et les gaz sont stockés dans des bonbonnes, rappelle le dirigeant de l'usine joint au téléphone, Mathieu Filion. À la fin du processus, il ne reste que des résidus alimentaires, des cartons ou des cheveux entremêlés dans le grillage. Le taux d'appareils recyclés dans ces installations a augmenté de 25% dans les trois dernières années, affirme M. Filion. Son usine roule pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nouvelle collecte à la porte viendra améliorer l'offre de services de recyclage, dit M. Filion. Il y a le recyclage, mais nous continuons de mettre de l'avant notre service de pièces récupérées, comme les bacs à fruits et légumes des vieux frigos pour réparer les appareils. Selon une analyse menée par des experts de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, en France, la fabrication d'un réfrigérateur demande l'équivalent d'environ 30 à 40 fois son poids final en ressources naturelles. Sans compter le plastique, qui représente l'équivalent de plus de 25 000 pailles pour chaque appareil. Réparer au lieu de recycler. Chez Equiter, organisme d'expertise en transition environnementale, l'analyste en réduction à la source, Julie-Christine Denoncourt, salue la nouvelle initiative tout en indiquant que l'idéal serait de prolonger la vie des appareils réfrigérants. De manière générale, je dirais que les consommateurs auraient intérêt à lire les guides du fabricant et prendre les mesures pour réparer au lieu de toujours acheter du neuf, note-t-elle. Les fabricants ont eux aussi leurs responsabilités. Il faut des appareils conçus pour être durables, des services de réparation et des centres de réemploi à bon prix des appareils usagés. À ce sujet, Go Recycle a lancé en 2023 le programme Go Réemploi, dont le financement provient des écofrais sur les nouveaux appareils. L'organisme a produit un répertoire des réparateurs d'électroménagers certifiés du Québec. On en trouve une cinquantaine à Montréal et à Laval, mais aussi à Saguenay, Québec, Rimouski et Saint-Gédéon-de-Beauce. En 2024, 20 189 appareils usagés auraient été remis sur le marché. C'est peu, considérant que près d'un quart de million, soit 201 954 appareils, ont été récupérés par Go Recycle durant la même année, sans compter les autres laissés à des ferrailleurs, sans donner de traçabilité. C'était « La collecte des vieux frigos enfin chez vous », un texte de Sarah Champagne, paru le 9 juin 2025 dans La Presse.